Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette introduction. Je vous rassure tout de suite, l'honneur est pour moi. comme Denis l'a dit, en fait, je viens de l'église de Réveil, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que j'ai grandi dans l'église de Réveil de Fribourg. Et que ça date. C'était dans les années 1980. Et ce que j'ai appris aussi par la suite, récemment, depuis que l'église de Fribourg m'a engagée à temps partiel pour un ministère d'enseignement, c'est que l'église évangélique de Réveil, en fait, est une implantation de l'église de Bienne, donc de vous. Donc c'est vraiment un très grand honneur pour moi d'être là, et c'est une grande joie, finalement, de penser que dans les années 80, le Seigneur a inspiré des gens d'ici. C'était l'époque de Gilbert Schwertmann, Alain Pilecki, et les a inspirés d'aller implanter une église à Fribourg. Et je peux vous garantir, cette église va bien, elle fleurit, elle a grandi. Le Seigneur était vraiment fidèle, donc on est très reconnaissants. Et c'est une joie pour moi de vous transmettre les salutations de l'église de Réveil, maintenant avec Fernand Clerc. Et puis vraiment, on est reconnaissants de ce que le Seigneur a fait au milieu de vous pour vous inspirer comme ça à venir et bénir Fribourg. Et ce que j'espère vraiment, c'est que le Seigneur va vous bénir aussi aujourd'hui et continue de vous bénir et de vous inspirer des bonnes idées. Voilà. Donc, comme il a été dit, j'enseigne à la Haute École de Théologie à Saint-Légier depuis une année et demie. Et puis, depuis l'automne passé aussi, donc à temps partiel, je seconde un peu Fernand Clerc à l'église de Réveil à Fribourg. Merci beaucoup pour cette invitation, donc. Connaissez-vous l'histoire de la grenouille, la fable de la grenouille? Il y en a plusieurs, hein. Je ne sais pas si on parle de la même. Mais que se passe-t-il si vous plongez subitement une grenouille dans de l'eau chaude? La pauvre, c'est vrai. Hein. C'est quoi ces exemples? Comme ça le dimanche matin? Non, écoutez, je vous rassure tout de suite, je n'ai pas fait l'expérience, mais d'après ce qu'on dit sur Internet, si on plonge subitement une grenouille dans de l'eau chaude, elle s'échappe d'un bond pour sauver sa peau. Mais si on la plonge dans de l'eau froide et qu'on porte très progressivement cette eau froide à ébullition, la grenouille s'engourdit ou elle s'habitue à la température et elle meurt ébouillantée. Alors je vous rassure tout de suite, encore une fois, je n'ai pas testé. C'est ce qu'on dit. D'ailleurs, j'ai après relu des articles qui disent qu'en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Mais c'est souvent comme ça qu'on raconte cette fable. Et ce que cette fable veut en fait illustrer, c'est que lorsqu'on est confronté à un danger subitement, c'est beaucoup plus facile de réaliser qu'on est en danger et puis de prendre des mesures pour y échapper. Par contre, c'est beaucoup plus difficile de discerner le danger s'il s'approche de nous subrepticement, donc gentiment, progressivement. On ne réalise pas finalement que notre environnement il a changé, puis qu'il y a quelque chose de nocif qui finalement nous approche et on ne réagit pas suffisamment pour se protéger. Et il me semble que cette fable, en fait, elle reflète assez bien des fois ce qui peut nous guetter en tant que chrétiens. Nous avons à un certain moment de notre vie accepté l'Évangile. Nous avons accepté le salut par la foi en Jésus-Christ. Nous avons compris que Dieu nous accepte, nous offre un nouveau statut en Jésus, un statut d'enfant de Dieu, une nouvelle relation avec lui, sur la base de ce que Jésus a fait, sur la base du fait qu'il est mort pour nos péchés. Nous avons compris que cela dépend uniquement de ce que Jésus a fait et pas de nos performances finalement, pas de notre moralité, mais uniquement de l'œuvre de Jésus. Et puis les années passent, et nous nous efforçons de vivre en chrétien fidèle, d'obéir à la parole. Nous cherchons à plaire à Dieu, nous cherchons à le servir, et puis peut-être même que nous cherchons à aller plus loin dans notre relation avec Dieu. Nous voulons avancer, et tout ça est très bien. Mais il se peut que dans ce processus, imperceptiblement, progressivement, un peu comme la grenouille finalement, un danger commence à nous guetter. Un danger qui est en fait très sérieux pour notre relation avec Dieu et aussi pour notre relation avec les autres. Un danger très sérieux pour l'Église. C'est le danger de commencer à croire, peut-être même un peu inconsciemment sans nous en rendre compte, que notre acceptation par Dieu, que son écoute de nos prières, que son don du Saint-Esprit, tout ça, c'est finalement dû à notre comportement, à notre service dans l'Église, à notre régularité dans la prière ou la lecture de la parole, à notre consécration. Alors gentiment, nous oublions que si nous pouvons nous approcher du trône de la grâce, si Dieu écoute nos prières, s'il nous donne son Saint-Esprit, s'il nous bénit, c'est uniquement et toujours à cause de ce que Jésus a fait pour nous et pas de ce que nous on fait pour lui. Autrement dit, nous pouvons, dans notre pratique de la vie chrétienne, subitement, gentiment oublier l'Évangile et ne plus le mettre au centre de notre vie de chrétien. Et il y a une situation un peu similaire qui s'était produite dans les églises que Paul avait fondées dans la région de l'actuelle Turquie. Paul avait prêché l'Évangile de la grâce, l'Évangile de la foi dans ces régions. Et ces églises, des églises s'étaient formées, des églises essentiellement de non-juifs. Seulement après le départ de Paul, des autres enseignants étaient venus et ils avaient commencé à enseigner ces chrétiens non-juifs et à leur enseigner que finalement, s'ils voulaient être des vrais chrétiens, des vrais quoi, il leur fallait aussi finalement pratiquer la loi juive. Alors ces enseignants, ils niaient pas qu'il fallait croire en Dieu, croire en Jésus, mais ils disaient, si vraiment vous voulez des bons chrétiens, il faut aussi vous faire circoncire et pratiquer la loi. Et ces enseignements, finalement, ça a conduit Paul à prendre, pas son stylo, mais donc ce qu'il fallait prendre, donc à écrire une lettre à ces églises. Et c'est la lettre que nous avons dans le Nouveau Testament comme l'épître aux Galates. Et j'aimerais avec vous ce matin lire finalement le premier chapitre de l'épître aux Galates qui nous parle un peu de cette situation et surtout de la réaction de Paul. Galates chapitre 1. De la part de Paul, apôtre établi non par des hommes ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité, et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Père et Dieu, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche encore à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Je persécutais à outrance l'Église de Dieu. Je cherchais à la détruire et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple. Car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. Lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi afin que je l'annonce parmi les non-juifs, je n'ai consulté personne. Je ne suis même pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je suis aussitôt parti pour l'Arabie, puis je suis retourné à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre et je suis resté 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, je l'affirme devant Dieu, je ne mens pas. Je suis allé ensuite dans les régions de Syrie et de la Cilicie. Or, mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, « Celui qui nous persécutait auparavant annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. » Et elles rendaient grâce à Dieu à cause de moi. beaucoup de choses dans ce chapitre. Mais finalement, on pourrait le séparer en deux. Dans la première partie, Paul nous affirme qu'il est extrêmement dangereux, finalement, de ne pas savoir discerner le véritable évangile. Et dans la deuxième partie, il nous explique pourquoi est-ce qu'on peut être sûr que l'évangile qu'il nous transmet, c'est vraiment le vrai évangile. Je vais juste regarder ces deux points avec vous ce matin. Quels sont les dangers d'adhérer à un autre évangile? Il me semble qu'il en liste trois. Le premier, c'est que se tourner vers un autre évangile, finalement, c'est se détourner de Dieu lui-même et de sa grâce. Il dit au verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Donc, il ne dit pas « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de l'évangile, de la grâce. » Il dit « Je m'étonne que vous détourniez de celui qui vous appelle par la grâce. » Donc, en fait, en commençant à ajouter des lois ou d'autres choses, il se détourne de Dieu lui-même. Il se détourne de sa grâce. Comment c'est possible? Je suis sûre que les Galates, ils n'avaient pas l'impression de se détourner de Dieu. Ils ne rejetaient pas Dieu, ils ne rejetaient même pas Jésus. Ils ne faisaient que ajouter certaines choses à Jésus. Mais en fait, en ajoutant certaines choses à l'Évangile, les Galates se détournaient du moyen que Dieu a déterminé pour nous sauver. Donc, ils se détournent de Dieu lui-même. Ils se détournent de sa grâce. Et se détourner de Dieu, c'est dangereux et très grave, puisqu'on se détourne de sa grâce, donc on n'est plus dans la grâce de Dieu. Mais c'est aussi ahurissant. C'est pourquoi Paul dit « Je m'étonne que vous vous détourniez ». J'aime beaucoup la traduction de Calvin, en fait, de ce passage de la Bible, parce qu'il dit « Je suis ébahi de ce que vous vous détourniez de celui qui vous a appelé ». Il est ébahi. Comment est-ce qu'on peut se détourner de la grâce? Comment est-ce qu'on peut se détourner du don de Dieu? En Jésus, Dieu nous a fait don d'un salut et d'un nouveau statut comme enfant de Dieu. Et quand on se détourne de ça, en fait, on se détourne de la grâce. On n'est plus dans la grâce. On est dans autre chose. La situation des Galates est donc non seulement dangereuse, mais assez ahurissante finalement. Ils se détournent du cadeau que Dieu leur fait. Une autre raison du danger de leur situation, c'est que tout autre évangile, et Paul insiste, c'est en fait une perversion de l'évangile. Et ça, des fois, on n'a pas très bien compris. Il dit non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile de Christ. Alors Paul le dit clairement, il n'y a pas d'autre évangile, il n'y a pas d'autre bonne nouvelle. Donc il n'y a pas d'autre moyen par lequel on peut devenir enfant de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen par lequel on peut avoir la paix avec Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen par lequel on peut faire partie de sa famille que de recevoir par la foi ce que Jésus a fait pour nous. Notre société aime bien affirmer qu'il y a plusieurs moyens, plusieurs chemins qui conduisent à Dieu, qu'il y a plusieurs façons d'établir une relation avec lui. Puis si une religion, une croyance ou une pratique, elle rend meilleure ou elle ne fait pas de mal à qui que ce soit, elle nous fait du bien, pourquoi est-ce que ce n'est pas un évangile tout aussi valide finalement? Pourquoi ce n'est pas un antidote aussi bien, autant valide qu'un autre pour faire des gens bien? La Bible a une opinion totalement différente sur la question. Il n'y a qu'un seul évangile. Dieu a donné un seul moyen à l'humanité pour qu'on ait une relation et pour guérir nos vies finalement. Il a donné un seul moyen pour rétablir notre relation avec lui. Et l'enseignement des nouveaux arrivants, des nouveaux enseignants, là, chez les Galates, il est décrit, en fait, très clairement comme une perversion de l'Évangile. On pourrait aussi dire que c'est une sorte de contrefaçon, ça ressemble énormément. Ça ressemble, ils prêchaient Christ, ils prêchaient Dieu, ils aimaient l'Ancien Testament. Mais ils ne prêchaient pas seulement Christ. Ils prêchaient Christ et la loi. Or, toute modification de l'Évangile, même une petite addition, transforme sa nature. Il arrive donc qu'il y ait des perversions, des contrefaçons de l'Évangile, non seulement dans le monde, mais aussi des fois un peu parmi les chrétiens, parmi nous, dans notre propre vie finalement. Parfois, on modifie un petit peu l'Évangile, et on remarque des fois même pas, comme les Galates. On ajoute une sorte de loi. On commence à se dire qu'il faudrait qu'on pratique toutes les lois juives, toutes les fêtes juives, pour être sûr qu'on est vraiment dans une bonne relation avec Dieu. Ou alors on commence, comme j'ai dit au début, on commence à croire que notre service pour l'Église, nos actions, toutes ces disciplines spirituelles qui sont bonnes, alors je ne dis pas le contraire, mais on commence à croire que notre relation avec Dieu, elle est basée sur ça. Que Dieu, finalement, il nous aime bien parce qu'on lit la Bible tous les jours, parce qu'on va à l'église tous les dimanches, parce qu'on fait la louange. D'autres fois, on modifie l'évangile en enlevant quelque chose à l'évangile. Des fois, c'est des additions, des fois, c'est des soustractions. Par exemple, on prêche la grâce, mais on oublie de prêcher la repentance, qui pourtant est le prérequis de la grâce. Parfois, on prêche la vie dans le Saint-Esprit, la nouvelle vie que Dieu nous donne dans le Saint-Esprit, mais on oublie de prêcher la mort à soi-même, qui finalement est quand même le prérequis d'une nouvelle vie en Christ. Ou des fois, alors, dans les églises, on peut être tenté de mettre à jour l'Évangile. On veut updater l'Évangile pour qu'il soit plus pertinent pour la nouvelle génération, pour le 21e siècle, ou pour qu'une certaine audience se dise oh, « aujourd'hui, on va parler aux jeunes, aujourd'hui, on va parler à ces populations-là, ok, il faut présenter ça comme il faut ». Alors, il est de notre devoir de présenter l'Évangile d'une manière pertinente, ça c'est vrai. Amen. Il faut qu'on l'exprime, qu'on apprenne à l'expliquer aux gens pour qu'ils comprennent sa pertinence. Mais il faut faire très attention, on ne peut pas modifier l'Évangile. On ne peut pas le déformer. Paul est clair, il n'y a qu'un Évangile, il ne le change pas. Il n'est pas différent à l'époque des Galates, il n'est pas différent au XXIe siècle, il n'est pas différent en Suisse, en Australie, en Afrique. Et puis, il n'y a pas d'évangile 2.0. Il n'y a pas d'évangile pour les chrétiens avancés et puis pour les chrétiens nouveaux dans la foi. L'évangile, c'est toujours le même. Ce qui se passe, c'est que quand on grandit dans la foi, on grandit dans notre compréhension de l'évangile, on grandit dans notre pratique de l'évangile. Mais ce n'est pas quelque chose de différent. Ce n'est pas qu'on entre dans la relation avec Jésus en croyant au sacrifice de Jésus pour nos péchés, puis après, on commence à s'ajouter toute une série de lois dans notre vie pour être sûr que Dieu nous aime, pour être sûr que Dieu écoute nos prières. Tout autre évangile est une perversion de l'évangile. Si on reprend l'image de la contrefaçon, c'est vrai que dans bien des situations, si on achète de la contrefaçon, je dirais que les conséquences ne sont pas extrêmement graves, à part pour le porte-monnaie. Hein. On achète un sac à main qui est fake, ou bien voilà, des habits de sport, puis après on se rend compte que c'est de la contrefaçon, on est fâché, on a perdu beaucoup d'argent. Mais bon, disons, il n'y a pas mort d'homme. Par contre, si d'un coup vous achetez des médicaments, des contrefaçons sur Internet ou comme ça, alors là c'est beaucoup plus grave. Parce que non seulement les médicaments ils risquent de ne pas guérir vraiment ce pourquoi vous les achetez, mais il se peut qu'ils aient encore des conséquences néfastes ou alors des effets secondaires indésirables. Et quand on parle de l'Évangile, on est plutôt dans le genre médicament. Si on commence à accepter dans nos vies des modifications de l'Évangile, c'est comme si on se tournait vers un médicament qui n'est plus le vrai. C'est comme si on basait notre relation avec Dieu sur quelque chose qui n'est plus vraiment ce que Dieu veut qu'il soit au centre de notre relation avec lui. Et ça, c'est des choses qui peuvent arriver justement aussi dans l'Église, aussi dans nos vies. Un autre évangile est dangereux parce qu'il donne l'illusion d'être le vrai évangile alors qu'il ne soigne pas vraiment notre problème et qu'il commence vraiment à le rendre plus grave. Et c'est certainement ce qui est en train de se passer chez les Galates, parce que si vous continuez à lire l'Épître aux Galates, vous voyez qu'ils ont toutes sortes de problèmes, individuellement. Et dans leur Église, il commence à y avoir de l'hypocrisie, les Galates ne sont plus sûrs de leur identité en Christ, ils ne sont plus sûrs de leur liberté en Christ. Il n'y a rien de pire qu'une contrefaçon de l'Évangile pour nous troubler individuellement et en tant qu'Église. Enfin, le dernier danger dont Paul parle, cette perversion de l'évangile, finalement, c'est que si on se met sous un autre évangile, si on accepte un autre évangile, on se met sous une malédiction. Et là, Paul a des mots extrêmement forts. Par deux fois, il dit que se tourner vers un autre évangile, ça place sous une malédiction. Alors parfois, il emploie le mot maudire, parfois, il emploie le mot anathème. C'est un mot très fort. Paul l'emploie très rarement. Et on peut se demander, ouais, mais là, il surréagit, quoi, c'est l'émotion. Mais non, parce que Paul le répète. Il dit « Je pèse bien mes mots », c'est ce qu'il dit. Si quelqu'un prêche un autre évangile. Et il ne dit pas si ces enseignants qui n'ont pas fait la bonne école de théologie, ils prêchent un autre évangile. Il dit « N'importe qui prêche un autre évangile, même si c'est moi-même, même si c'est un ange, qu'il soit maudit. » Pourquoi un langage comme ça fort? Alors il faut continuer à lire l'Épître aux Galates pour se rendre compte vraiment pourquoi est-ce que c'est comme ça fort sa réaction. Il y en a plusieurs. Déjà une, d'affirmer que finalement notre relation avec Dieu elle est basée sur la croix mais aussi sur nos performances. Finalement ça veut dire que la croix de Jésus elle n'est pas suffisante. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que ce que Jésus a fait à la croix, c'est suffisant peut-être pour le début de notre vie chrétienne, mais pas plus tard. Qu'après, il faut qu'on complète un peu ces bonnes œuvres, ces œuvres que Jésus a faites. Et ça, c'est extrêmement grave. Mais aussi, c'est extrêmement grave parce que finalement, si, quand une personne elle prêche un autre évangile, elle entraîne les gens loin de la grâce de Dieu. Et puis là, c'est vraiment le destin éternel des personnes qui est en jeu. Prêcher un autre évangile, c'est détourner les hommes et les femmes du seul moyen de salut. On pourrait encore parler longtemps, je pense, des conséquences de cet autre évangile. Mais ce que Paul insiste vraiment, c'est que ce n'est pas anodin, ce n'est pas dangereux. Il faut vraiment penser à cette histoire de la grenouille. Quand on commence vraiment à adhérer à ces choses-là, individuellement pour l'Église, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux qui nous guette et qui va saper notre relation avec Dieu et notre relation avec les autres. D'accord, Paul dénonce les faux évangiles, mais pourquoi est-ce qu'il est autant sûr que son évangile à lui, c'est le vrai? Et ça, c'est ce qu'il nous explique dans la deuxième partie du texte. D'où lui vient cette confiance? La confiance de Paul, elle est basée sur un fait très simple. C'est qu'il est convaincu qu'il tient son évangile de Dieu lui-même. Et c'est ce qu'il nous explique dans la deuxième partie. Déjà, il nous dit que le véritable évangile n'est pas le fruit d'une pensée humaine. Je veux que vous le sachiez, frère, l'évangile que je vous ai annoncé n'est pas le fruit d'une pensée humaine, car je ne l'ai reçu d'aucun homme. Personne ne me l'a enseigné. On pourrait aussi traduire « l'évangile que j'annonce n'est pas selon l'homme ». Autrement dit, l'évangile, en fait, finalement, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement naturel pour nous, êtres humains. Nous, en général, on a l'habitude que si on veut quelque chose, il faut payer pour l'avoir, il faut le mériter. Donc, si on veut être fils de Dieu, c'est normal qu'il faut vraiment le mériter vachement, quoi. Surtout si on a été 30 ans, surtout si on a été chrétien pendant 30 ans, quoi, il faudrait quand même qu'on montre un peu de progrès, quoi. L'évangile, ce n'est pas quelque chose de naturel pour l'être humain. Et c'est pour ça, Paul, il dit, ce que je vous prêche, ce n'est pas selon l'homme. C'est assez normal, finalement, qu'on s'en détourne facilement puis qu'on ait de la peine à l'accepter. Paul dit, il n'est pas, par exemple, le résultat, le fruit d'un raisonnement humain. Paul n'a pas commencé, il n'a pas inventé son évangile lui-même en passant de longues heures à réfléchir à l'Ancien Testament. Il a réfléchi, bien sûr, mais il n'a pas inventé depuis là. Et Paul, il va même plus loin parce qu'il insiste, en fait, il ne m'a même pas été enseigné par des hommes. Autrement dit, Paul, il ne l'a pas non plus reçu en fait, des autres apôtres. Et c'est pour ça qu'il s'étale assez longuement dans ce chapitre. Il dit, ah, vous voyez, j'ai vu les apôtres, mais j'ai pas reçu mon évangile d'eux. En fait, je les ai vus que beaucoup plus tard. Et puis quand je les ai vus, ils n'ont fait que confirmer qu'on avait le même évangile. Ce n'est pas eux qui me l'ont enseigné. C'est ça qu'il veut dire. C'est pour ça qu'il explique tout son cheminement. Il veut que les gens comprennent, ce n'est pas eux qui m'ont enseigné cet évangile-là. Il vient directement de Dieu. Et après, il dit, finalement, son évangile, il lui a été révélé directement lors d'une révélation de Jésus-Christ. C'est Dieu qui a directement et miraculeusement révélé son évangile à Paul par l'intermédiaire de Jésus. Alors, vous connaissez probablement l'histoire de Paul, qui résume un peu ici pour les Galates. Paul, il le dit bien avant, il avait entendu parler des chrétiens. Il avait entendu parler de ce salut par la foi, par la grâce seulement. Mais lui, alors, il était juif jusqu'au bout des ongles, il gardait très bien la loi, et il n'était absolument pas convaincu par les arguments des chrétiens. Absolument pas. Pour lui, cette grâce, ces histoires, c'était vraiment, ça ne joue vraiment pas. Et puis, il était convaincu qu'il fallait détruire ces chrétiens. Et après, quelque chose s'est passé. Que nous lisons au chapitre 9 du livre des Actes, je veux juste vous lire quelques versets. Saul, donc Paul, qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville quand, soudain, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur ? » demanda-t-il. La voix reprit « Je suis, moi, Jésus, que tu persécutes. » C'est cette révélation de Jésus qui a formé la base de l'évangile de Paul. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est pas aussi appuyé sur ce qu'il avait entendu des autres chrétiens. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'a pas réfléchi sur les textes de l'Ancien Testament. Bien sûr qu'il y a toute une réflexion. Mais finalement, c'est la révélation de Jésus lui-même qui a été la pierre angulaire pour qu'il comprenne l'évangile. Et pour Paul, la preuve que son évangile, elle ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu, c'est que jamais un homme aurait pu le convaincre. Il persécutait l'Église. Il voulait détruire cet évangile. La seule chose qui pouvait vraiment faire changer un type comme Paul, c'était vraiment qu'on le fasse tomber de son cheval. C'était vraiment que Jésus apparaisse. Et il le dit, vous connaissiez, vous saviez comme j'étais. Vous devriez savoir que l'évangile que je prêche, il ne peut que venir de Dieu. Tout le monde avait entendu parler de Paul. Et lorsque les gens tout à coup ont commencé à entendre que non seulement ils ne persécutaient plus les chrétiens, mais qu'ils prêchaient ce même évangile, il était assez clair que quelque chose s'était passé. Donc Paul est sûr de lui. Il est sûr que son évangile vient de Dieu. Et il est sûr aussi parce qu'il l'a vécu. Parce que, comme le montre son propre évangile, son propre témoignage, pardon, il a expérimenté le Dieu de la grâce dans sa vie. Lui, il persécutait l'Église. Personne, plus que lui, ne méritait pas, finalement, cette grâce. Il le dit dans d'autres passages, il dit que c'est à cause de ça, lui, c'est le dernier des apôtres, c'est le plus grand des pécheurs. Et pourtant, un type comme ça, Dieu s'est révélé à lui. Paul a expérimenté la grâce de Dieu extrêmement puissamment. Non seulement Dieu lui a révélé sa grâce, mais il l'a appelé, il lui a confié un ministère. Un ministère extrêmement important. Quel autre que Paul pouvait prêcher la grâce de cette façon que quelqu'un qui l'a expérimenté à ce point? Dans cette deuxième partie de chapitre, finalement, on comprend pourquoi Paul il est aussi sûr de son évangile. Pourquoi il peut finalement le défendre, même au prix de l'hostilité de ses autres enseignants. Il le dit, il ne cherche pas à plaire aux hommes. Son évangile, ce n'est pas une sorte d'adaptation systématique pour les non-juifs, pour essayer de remplir l'Église. Il se dit, ok, c'est la grâce seulement, venez tous. Puis une fois que vous êtes dedans, il faut peut-être voir pour ajouter quand même deux, trois éléments de loi, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas du tout ce qui... Non, pour lui, cet évangile, il vient de Dieu. C'était l'idée de Dieu de nous sauver par la grâce. C'était l'idée de Dieu de nous sauver par la grâce uniquement. De nous donner ce nouveau statut de membre de sa famille. Uniquement à cause de Jésus. Et nullement à cause de nos œuvres. Paul peut donc parler avec assurance et autorité. Que retenir donc de ce chapitre pour nous aujourd'hui? Tout d'abord, qu'il nous faut rester sur nos gardes. Et je crois que ça nous concerne tous, même après 30 ans de vie chrétienne. Rester sur nos gardes et veiller à ce que nous n'adhérions pas imperceptiblement à un autre évangile, même s'il ressemble passablement à cet évangile auquel nous avons cru au début. Comme les premiers versets de ce chapitre le montrent, même les petites déviations ne sont pas anodines. Elles sont dangereuses pour nous, pour notre relation avec Dieu, pour notre relation avec les autres. Si on commence à croire que Dieu nous accepte uniquement à cause de notre performance, de notre consécration, de notre service, on va commencer à se sentir insécure. On va commencer à douter, on va commencer à se comparer aux autres. On va commencer à se dire, je suis quand même un peu mieux que cette personne, est-ce que je suis mieux que lui? Oui, je suis mieux que lui. Notre relation avec Dieu va vraiment souffrir. On n'aura plus cette paix et cette joie en lui. On n'aura plus cette sécurité qui vient finalement de cette confiance que nous sommes ses enfants à cause de Jésus. Et que sur cette base, on peut toujours s'approcher de lui. Ce que nous croyons a une influence directe sur la façon dont on se comporte. envers Dieu et envers les autres aussi. Méfions-nous de ces petits changements. Souvenons-nous de l'histoire de la grenouille. Ces changements imperceptibles sont vraiment dangereux pour notre survie en tant que chrétien. Enfin, je crois que le deuxième élément qu'il faut retenir de ce passage, c'est vraiment que notre seule autorité finalement pour savoir ce qu'est l'Évangile, ça ne peut être que la parole de Dieu. Notre autorité en la matière, elle ne doit pas être nos raisonnements, parce que ce n'est pas selon l'homme. Elle ne doit pas être nos préférences. On se dit, ce serait quand même bien d'ajouter une petite loi par là. Nos sentiments. On se dit, je me sens bien aujourd'hui, donc Dieu m'aime, je ne me sens pas bien. Donc peut-être Dieu il est fâché. Je ne dis pas que des fois ça peut être vrai, mais des fois, ce n'est pas ça qui doit être notre base, c'est ce que dit la Bible. Ultimement, notre autorité ne doit pas non plus être basée sur une tradition, ni même sur ce que dit un prédicateur connu. Non, notre autorité ultime doit être la parole de Dieu. Et comme le montre le témoignage de Paul, on peut être sûr de ce qu'elle nous dit, parce que Paul et les autres auteurs du Nouveau Testament ont leur évangile de Dieu. Cet évangile, il n'est pas selon l'homme, il faut qu'on se souvienne. Donc, très certainement, on va être tenté de le modifier, de ne plus se baser sur lui pour s'approcher de Dieu, de se baser sur nos propres efforts, de regarder à nous au lieu de regarder à Jésus. Mais cet évangile vient de Dieu, c'était son idée, c'était son œuvre du début à la fin. C'est pour ça, en fait, qu'on peut s'appuyer, qu'on peut l'embrasser dans nos vies, et puis qu'on peut aussi, comme Paul, apprendre à le défendre dans nos propres vies. Je vous propose de prier ensemble. Oui, Seigneur, tu as dit que la vérité nous rendrait libres. Seigneur, et nous croyons cela, nous croyons que tu es venu pour nous libérer, tu es venu pour que nous ayons une relation avec toi. Et nous te prions vraiment que ta parole ce matin puisse faire son chemin dans nos cœurs, qu'elle puisse gentiment nous transformer, nous toucher au plus profond de nous-mêmes, Seigneur. Montre-nous ces endroits de nos vies où peut-être nous avons commencé un peu à déformer l'Évangile, où nous nous appuyons sur nous-mêmes pour nous approcher de toi, plutôt que sur ce que tu as fait, Jésus. Aide-nous, Seigneur, vraiment à prendre conscience de ces petites déviations qui, finalement, nous empêchent d'être dans une vraie relation avec toi, qui nous empêchent d'être humbles devant les autres, qui nous empêchent d'avoir une vraie communion avec nos frères et sœurs et aussi avec les gens du dehors. Seigneur, je te prie vraiment aujourd'hui pour moi-même, pour mes frères et sœurs ici, que nous puissions grandir dans la connaissance de l'Évangile. Puissions toujours plus comprendre, Seigneur, finalement, quel est cet immense cadeau que tu nous donnes en Jésus. Que même si nous avons été chrétiens pendant de nombreuses années, Père, nous avons toujours à redécouvrir la profondeur, la largeur de ton amour et de ce que tu nous donnes en Jésus au travers de ton sacrifice. Transforme-nous, Seigneur. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons besoin de toi, tellement besoin de toi, Jésus. Et ton évangile nous libère. Il nous libère du péché, mais il nous libère aussi, Seigneur, de la loi, de ces fardeaux, Seigneur, que toi tu as portés, que toi tu as accomplis pour nous. Merci, Jésus. Merci pour ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Merci pour ton amour. Je te prie vraiment de bénir mes frères et sœurs ce matin. Amen.